Et comme chaque semaine, on retrouve Jean-Baptiste Placa pour son édito. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Grégory Lesca.
Et cette semaine, vous revenez sur les hésitations de l'Union africaine vis-à-vis des nouvelles autorités du Tchad. À force de reporter sans cesse sa décision, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine n'est-il pas en train d'accréditer l'idée selon laquelle l'organisation serait embarrassée, gênée, voire divisée sur l'attitude à tenir face à une succession que l'on dit dynastique ?
Bien sûr que l'Union africaine est embarrassée et c'est même un classique que de la voir si peu audible face à une situation de ce type. Mais dans cette Afrique centrale où la règle est de ne s'étonner ni des présidents sa vie, ni des successions dynastiques, l'embarras devant ce qu'il faut bien appeler un coup d'État vient de ce que tous se demandent si, au lieu d'appliquer ses propres règles, l'UA ne serait pas mieux avisée de prendre en compte les services rendus par le Tchad et ceux que l'Afrique en attend peut-être encore. Sauf que tout traitement de faveur pour les héritiers du maréchal Déby pourrait inciter ceux des Tchadiens qui croient encore à la démocratie à vouloir se rendre justice eux-mêmes, avec ce que cela préfigurerait de troubles et de morts au regard de la brutalité dont s'est déjà montré capable ce nouveau pouvoir.
Prendre en compte les services rendus ne relève-t-il pas du réalisme après tout ?
Peut-être, mais le réalisme qui pousse à ruser et à tricher avec ses propres principes nous ramène à la façon dont l'Afrique se définit elle-même par rapport à l'état de droit et à la démocratie. Ce sont des fautes morales à répétition et nul n'oblige l'Afrique à prétendre vivre en démocratie. Peut-être que les Africains devraient se demander s'ils n'ont pas collectivement manqué de lucidité en imaginant, au sortir de 3 décennies de parti unique et de régime plus ou moins autocratique, qu'ils pouvaient, juste en changeant de loi fondamentale, se retrouver comme par miracle en démocratie. L'Afrique n'aurait-elle pas dû aborder le tournant des années 90 comme le début d'un apprentissage au lieu de s'imaginer être passé comme par enchantement en classe supérieure? Comment avons-nous pu penser que du simple fait d'avoir plagié ou tropicalisé les constitutions des anciennes métropoles ou d'autres pays occidentaux, l'on pouvait s'estimer subitement en démocratie?
Alors tout de même, la gouvernance ne s'est-elle pas améliorée?
Autrefois, dans les autocraties assumées, l'on vous mettait en prison sans jugement et parfois sans même vous signifier les motifs de votre arrestation. Et le tout-puissant président vous libérait quand cela lui plaisait. Aujourd'hui, les dirigeants s'appuient sur une justice souvent complaisante pour trouver un semblant de base légale à votre emprisonnement. Mais à ceux qui voudraient protester contre l'arbitraire, l'on rétorquera alors que l'on est en démocratie et que la justice est indépendante.
Les populations n'ont pas été davantage éduquées à la démocratie.
Non, d'où parfois la violence avec laquelle certains vivent les échecs électoraux. À quel niveau de démocratie sont les uns et les autres? Par honnêteté vis-à-vis d'elles-mêmes, l'Afrique ne devrait-elle pas engager une réflexion sereine sur la définition qu'elle se donne de l'état de droit et de la démocratie, ne serait-ce que pour mieux baliser l'idéal que le continent souhaiterait atteindre en la matière? Moins ils le sont, plus fort ils clament être démocrates, tout en posant parfois des actes contraires à la démocratie, justement. Plutôt que de continuer à avancer dans le brouillard en se gargarisant de termes et de qualificatifs dont le sens échappe parfois à la majorité des citoyens, il serait urgent de se ressaisir pour penser comment, à une échéance raisonnable, construire de vraies démocraties, devenir de vrais démocrates.